Philippe, 25 mai 1983, Rimont.
Je vous ai dit la dernière fois que nous allions commenter cette recherche sur le problème de l'un et du multiple. Comprenez bien où se situe. Comment il faut situer ce problème par rapport à la philosophie première. En philosophie première, on interroge sur ce qu'il y a de plus fondamental, ce qui est au-delà de nos expériences et qui fonde toutes nos expériences, c'est-à-dire ce qui est vu du point de vue de l'être. Et on se demande comment ce qui est du point de vue de l'être, quelles sont ses déterminations premières. Qu'est-ce que c'est que l'être? Mais qui est-il de l'être? Et nous découvrons la substance, puis nous découvrons l'autre tiesti, qui est le tiesti ultime de la causalité finale. Un des deux grands axes de toute la métaphysique, je crois que vous commencez à le comprendre, mais il faut essayer de comprendre de l'intérieur, hein, pas seulement répéter pour les examens, vous avez le droit, mais pas en dehors des examens. Mais pour de le comprendre, comment les deux grands axes de la recherche philosophique, de la philosophie première, donc ce qu'est ultime en philosophie. Toute la construction de la philosophie se termine par la philosophie première. Et dans cette philosophie première, on cherche les deux grands axes du qui de ce qui est. Et je dis bien de ce qui est, puisque c'est la réalité existante qu'on interroge et qu'on essaie de comprendre ce qu'elle est, vu du point de vue de l'être. Parce que l'être n'existe que dans mon intelligence. Hein. Vous n'avez jamais rencontré l'être. Vous avez rencontré ce qui existe, ce qui est. Mais vous pouvez interroger et savoir qu'est-ce que c'est ce qui est du point de vue de l'être. Il y a une formalisation dans l'être par rapport à ce qui est. Et c'est cette formalisation qui fait que justement j'interroge. Qu'est-ce que c'est que ce qui est du point de vue de l'être? Alors, je découvre les deux grands axes du tiesti, le point de vue de l'illusion, le point de vue de l'acte. Les deux grands axes. Une fois que j'ai découvert ces deux grands axes, je me pose la question, quelle est la propriété de ce qui est? Toute science, toute connaissance scientifique aboutit nécessairement à découvrir la propriété. La découverte des principes propres, c'est essentiel, mais ce n'est pas encore le point de vue scientifique. Le point de vue scientifique, c'est toujours la conclusion, il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que la connaissance scientifique n'est jamais ce qu'il y a de plus grand. C'est quelque chose de très important, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus grand. Donc il faut se poser la question, à partir de ces principes, est-ce que je peux rejoindre de façon plus concrète la réalité qui existe? Quelle est la propriété de l'être? Et la propriété de l'être, nous allons essayer de comprendre que c'est l'un et le multiple. Bon, ceci, c'est un autre tissu, mais nous sommes plus dans la recherche des causes propres, nous sommes plus dans la recherche de ce qui structure la pensée de la philosophie première, mais nous sommes dans les conséquences. C'est moins important dans le fait même. Vous dites, maintenant j'ai tout compris, j'ai compris la substance, j'ai compris là, ça va, fini. Le mot, faites attention. Quand vous avez une connaissance analogique de la substance, quand vous avez une connaissance analogique de l'acte, la petite propriété va vous aider beaucoup à mieux comprendre. C'est pour ça qu'on en a besoin de cette recherche, pour mieux comprendre. Si je ne saisis pas la propriété, je risque de ne pas comprendre parfaitement. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de saisir ce que c'est que la propriété et de comprendre l'établissement que l'ennemi dernier. Parce que de fait, j'ai pas une connaissance parfaite. Si j'avais une connaissance parfaite, je dirais c'est simplement une conclusion. Bon, la conclusion, c'est complètement intéressant. L'intéressant, c'est saisir la source. Et pour moi, tu auras la source. Ah non, il faut aller plus loin. Il faut essayer de saisir les conséquences. Parce que si je ne saisis pas les conséquences, il y a quelque chose que je ne saisis pas bien. Donc il faut saisir les propriétés. Et la propriété de l'ouvrir. Et donc, il faut bien saisir que, étant donné la pauvreté, la finesse de notre connaissance par rapport au domaine métaphysique, on est comme des oiseaux de nuit, mais ce n'est pas l'expression d'Aristote, hein, on est comme des oiseaux de nuit par rapport au métaphysique. Il y a un brouillard matinal et un brouillard respectueux d'Aristote, et alors ce brouillard, c'est une illusion de comprendre ce que c'est la réalité. Et quand je crois la connaître, en réalité, oui, je veux le faire, je veux creuser indéfiniment. Je sais plus qu'on devient métaphysicien qu'à partir de 45 ans, quand on a commencé à 17 ans. Hein. Alors, oui, c'est pas parce qu'on a 45 ans qu'on sera métaphysicien, il fallait commencer à 17 ans. Et lorsqu'on a commencé qu'à 45 ans, ce sera 70 ans, n'est-ce pas? Vous voyez bien, parce qu'il faut du temps. Il faut du temps, ça va accepter. C'est du temps avant de comprendre profondément, et donc avant de juger trop vite. Oui, c'est ça, mais c'est pour ça qu'il n'y a plus de philosophie première aujourd'hui. Parce qu'on va le faire très vite. On va étudier tout de suite le sujet. Mais non, il faut du temps, il faut y réfléchir. C'est ça la contemplation, ça met du temps. Ça met du temps avant d'être en contemplatif. Et un contemplatif au plan philosophique, ça met très très longtemps. Alors, il faut essayer de comprendre quand même deux grands axes de la philosophie, de ma philosophie première, Lysia et Maître Premier, vont en quelque sorte nous faire comprendre les problèmes de la vie. Alors, avant d'entrer vraiment dans ce problème, je vais vous dire une petite histoire. C'est très intéressant de bien la faire. Parce que je verrai que le problème de la vie est devenu de fait. Résume admirablement toutes les positions philosophiques. Je crois que toutes les philosophies, toutes, acceptent le problème de l'individu. Donc, d'une certaine manière, je pourrais dire que le problème de l'individu, c'est l'humanisme philosophique. Je crois qu'il n'y a pas une seule philosophie qui analyse, réalise, analyse n'importe quelle philosophie, structuraliste, le problème de l'individu. C'est très significatif ça. C'est très significatif de voir que tout le monde accepte. C'est pas tellement, c'est la propriété. La propriété, c'est ce qu'on accepte le plus facilement. C'est ce qui se voit directement. Tandis qu'au contraire, le problème de l'art et des quantités philosophiques, il n'accepte pas la substance. Le problème de l'art et des quantités philosophiques, il n'accepte pas. Mais très peu de philosophes ont vraiment saisi le problème de l'art. Prenez la vérité, tout le monde accepte. Non, ça, il faut comprendre, hein, l'humanisme au niveau philosophique. Toutes les philosophies acceptent le problème de l'humanisme. Mais toutes les philosophies l'acceptent diversement. Donc, toutes l'acceptent diversement. Alors, il est bon de regarder diverses positions. Première position, très nette, hein, le problème de l'humanisme est le problème capital. C'est le premier problème, c'est le problème principal de toute la philosophie. Je vous ai dit, quelqu'un qui a vrai à cœur, donc il y a provenant du vin, il est mort. Les rédacteurs du livre disaient ouvertement en d'autres ce qu'ils voulaient être. Ils disaient que le problème de l'individu, c'était le problème principal de toute la philosophie. En réalité, c'est le problème principal du néoplatonisme. Et le néoplatonisme représente un courant philosophique très important. Ça, c'est du coup. Je crois que c'est le courant le plus général. C'est celui qu'on retrouve tout le temps. Je crois que toute la position de l'ontologisme dépend du néoplatonisme. Alors c'est important de voir que le néoplatonisme va de fait mettre, ça on va essayer de comprendre parce que c'est quand même très important. Le problème du néoplatonisme, il est le problème de l'individu au-dessus de tout. Alors avant le néoplatonisme, vous avez Héraclite. Héraclite, le problème de l'individu, je crois au-dessus de tout. Ça, je crois que si on regarde attentivement Héraclite, je ne vais pas faire un peu, mais c'est quand même intéressant. Héraclite est un grand bonhomme, hein. Parmi nous, les Héraclites, il faut les connaître. Il faut avoir lu les textes et puis les connaître, parce que c'est quand même deux pensées très importantes au point de vue philosophique grec. Alors, on ne peut pas dire que parmi nous, ce problème de l'âge multiple.
Hein.
De cette manière.
Oui. Mais comme le multiple tombe dans la, le, vraiment dans le non-être, c'est le problème de l'un, Parménide. Et Parménide est toujours apparu comme le problème de l'un. Donc, c'est pas première position. On mettra comme seconde position.
Et c'est pour ça qu'on dit au catéchisme, le problème de l'un qui est le premier, et quelque part de la dans le catéchisme, qui est notre position, condition extrême, seulement existe. Seulement existe. Le multiple, c'est du mal-être. C'est une autre position. Alors on peut dire que c'est la position parménide. La position parménide, je crois, qui considère, je sais qu'on peut discuter, hein. On peut discuter parce que les textes sont pas très communs de bien comprendre, mais au fond, le multiple chez parménide semble quelque chose de tout à fait secondaire. Tandis que chez Héraclite, l'un et le multiple sont toujours dans la face de l'autre. Mais en fait, on ne peut pas saisir un homme complètement séparé du multiple. Tandis qu'ici, on pourrait dire un homme complètement séparé du multiple. Et le multiple serait complètement secondaire. Donc, position parmi nous, c'est tout de suite deux positions très importantes à bien saisir au point de vue philosophique. Parce que ces deux positions fondamentales et très capitales. Vous avez ensuite la position de Hindenburg, qui est encore une position de l'un du multiple. Ce qui nous intéresse plus, c'est de saisir la position de Platon. Platon, vous savez bien, met l'un au-dessus de l'être. Alors, l'exaltation de l'un, c'est dans le sens de Parménide. Parménide, Platon. L'un est au-dessus de l'être. Je ne peux donc même pas dire que l'un existe. Non, c'est l'un. C'est tout. C'est parce que quand je dis que l'un existe, je me dis que l'un doit exister. Ça n'a pas beaucoup de sens de dire ça. Alors je dois dire, c'est comme je dis, vous voyez, l'un est dans l'être. On est très bien dire ça, l'un est sans l'être, parce que l'un est au-dessus de l'être. L'un est au-dessus de l'oxia. Donc l'un est au niveau du bien. Ça, c'est très intéressant à voir, c'est l'un et le bien sont parallèles. Philosophie de l'un, philosophie du bien, ça c'est Platon. Hein. Le défi premier entre le bien et l'un, entre l'un et le bien, je crois que Platon. Platon ne s'est jamais posé problème. Déjà, alors c'est dialogue. Il n'a jamais dit que l'un était au-dessus du bien, que le bien était au-dessus de l'un. Jamais. Il n'a montré que le bien, ainsi que l'un, est au-dessus de l'être. Alors est-ce que les deux se confondent? C'est curieux. Mais au fond, c'est là la grande faiblesse de cette position. Parce que pour Platon, la diable n'est jamais première. Or, vous avez l'un et le bien. Qu'est-ce qui va faire l'unité entre l'un et le bien? Il faut se poser la question. Qu'est-ce qui va faire l'unité? Je dis que ça s'identifie, mais si elle m'a dit, pourquoi vous avez deux mots? Pourquoi vous dites l'un et vous dites le bien? Et je vous dis bien que le bien est quand même autre chose que l'un. Quand vous dites Pierre est un, Pierre est deux, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Tu existes dans ton identité, mais ton identité n'est pas sûrement d'autre. Hein. Alors, on voit très bien qu'il y a quand même deux problèmes, hein. Le problème de l'homme et du bien, et au fond, Platon reste en face de telle affirmation sans conclure. Ce serait très intéressant, vous voyez, de relire, je ne vous demande pas de le faire, parce que vous n'avez pas le temps de le faire, mais ce serait très intéressant de relire tout Platon dans la lumière de l'un et du bien. Parce que là, vous avez les deux sommets. Et c'est toujours intéressant de lire un philosophe par son sommet. Alors l'un et le bien, c'est les sommets de Platon. Et comment ces deux sommets peuvent-ils se ramener l'un à l'autre? Entre deux, il y a le beau. Vous avez une trinité. L'un, le beau, le bien. Alors évidemment, entre le bon et le bien, c'est très bien que Nathan a gardé les deux. Et c'est ça qu'il faut reconnaître dans le banquet, voir si c'est le bon ou le bien qui est avant. Très difficile aussi. On a plutôt l'impression que le bon est quelque chose qui nous permet de conduire vers le bien. Plutôt que c'est quelque chose donc, qui est maîtrisable. Et qui est au fond le cœur de tout le platonisme. La question de l'un, du bien et du bon. Au-delà de l'être, et que le bon peut-être va être le lien entre l'être et le bien. Je dis ça, peut-être, c'est pas précis. Mais c'est quand même un peu, c'est l'impression qu'on a. Vous voyez, Platon, je ne crois pas qu'il y ait des textes de Platon explicites en disant que le beau est au-dessus de l'ousia, tandis qu'il dit le bien. Et d'autre part, on montre très bien que le beau et le bien se touchent et se tiennent. Alors il y a quelque chose qui est intéressant à voir, que de fait, une philosophie de l'un est liée à la philosophie du bien. Alors vous avez, comme toujours dans Platon, certains dialogues où, de fait, on a l'impression que le point de vue de l'un apparaît comme ultime. Alors est-ce que plus Platon avance, plus l'un apparaît comme ultime? C'est possible. Très difficile, on ne peut pas comprendre. Troisième position, la position d'Aristote. Vous êtes bien compris. La position d'Aristote. Mais avant de voir la position d'Aristote, je vais tout de suite voir comment la position de Platon nous trois mille. Dans le livre Platon Plotin. Alors les trois. Alors vous avez la position de ces trois qui est parallèle, hein, qui est parallèle. Alors la position de Platon, c'est une position qui, dans la ligne même de Platon, ça on ne peut pas nier, c'est dans la ligne de Platon était compréhensible, puisque de fait, pour Platon est divin. Platon représente quelque chose qui est presque une révélation. Le divin Platon. C'est pas simplement le divin Platon parce qu'il est intelligent, mais c'est quelque chose de plus. Il y a quelque chose de particulièrement important, je crois, dans cette vision de Platon par rapport à Platon. C'est qu'il critique Aristote, il n'hésite pas de le faire, mais lorsqu'il s'agit de Platon, on ne peut pas le critiquer d'une certaine manière. Alors regardez dans Plotin. Plotin, c'est sûrement le philosophe de l'un dans sa plus grande pureté. Et Plotin se trouvera devant le même problème que Platon, le lien entre l'un et le bien. Mais Plotin va réfléchir sur cela. Il va montrer que l'un et le bien sont identiques. Le bon, non. Le bon est inférieur. La grande précision dans les Platins par rapport à Platon. Le bon est inférieur. Le bon n'est pas au même niveau. Le bon est au niveau de la forme et de l'être. Tandis qu'au contraire, l'un et le bien sont au-delà de l'être. Et l'un et le bien s'identifient et s'identifient grâce à la puissance. C'est très connu. Il y a quelque chose d'extrêmement intéressant à voir. C'est la dynamique. C'est la dynamique qui va être le lien entre le bien et l'un. Mais je crois qu'en définitive, c'est bien l'un qui commande toute l'intuition que fait. Plus que le bien. Le bien et l'un s'identifient. Mais c'est l'un qui commande la vision. Pourquoi? Parce que c'est l'un qui est source. Et dans Plotin, tout le mouvement de la tête, c'est la prospection et le retour. Hein? Il y a l'émanation et puis le retour. L'émanation à partir de l'un et le retour vers le bien. Et les deux se tiennent. Nous sommes obligés de faire l'année dans suivre, mais pour Platon, les deux se tiennent. Mais tout prendra de l'un. Et c'est pour ça que Platon dira que le problème le plus important de tout en philosophie, c'est de voir comment de l'un
procès le multiple. Il ne dit pas, le problème principal de toute la philosophie, c'est de voir comment du bien procède le multiple, pas du tout. C'est de l'homme. Il ne dit pas, le problème principal de la philosophie, c'est le retour vers le bien, l'attraction du bien humain. Ça, c'est très intéressant, je crois, parce que c'est très difficile de voir chez Platon le rôle exact de la finalité. La finalité est présente chez Platon, comme chez Platon. Elle est présente. Mais elle n'est pas dite comme étant le problème principal et ultime. Le problème principal, c'est le problème de la procession à partir de l'homme. Et je crois que c'est ça qui doit nous aider à comprendre Plotin. Plotin est très important, hein. Très important pour toute une tradition de cognition, très important parce que c'est quand même un grand philosophe mystique. C'est toute la grande question de Plotin. On essaiera de travailler un peu plus sur Plotin, parce que ça c'est très important, Plotin, et puis pour tous les pères de l'Église, pour toute la pensée ensuite, et pour tout l'ontologisme. L'ontologisme est mieux que Plotin. Donc c'est une source nulle. Platon, Aristote, Plotin. Et Plotin ne peut pas se comprendre sans Platon et sans Aristote. On ne peut pas se comprendre Plotin. Absolument pas sûr. C'est quelqu'un qui fait une espèce d'unité entre Platon et Aristote. Il veut plus cette unité. Mais la très grande différence, c'est que Aristote est digéré dans la mesure où il permet de développer Platon. Donc il n'hésite pas à faire la critique d'Aristote pour exalter Platon. Il faut bien saisir comment se limiter en chez Platon. Et l'unité, c'est vraiment Platon. Mais il y a une précision, je ne dis pas du tout Platon, c'est Platon. Ça se serait très bien que Platon et Platon. Il n'y a pas d'identification entre les deux, comme il n'y a pas d'identification entre Platon et Parménide. Hein. C'est des positions différentes. Mais il y a une source qui est Platon. La source de Platon, c'est Platon. Et il était de se servir de toute la philosophie aristotélicienne, surtout la philosophie de l'énergéia, la philosophie donc de l'acte, pour essayer de mieux comprendre. Alors, il me semble qu'on peut dire que chez Plotin, l'intuition dominante, ultime, c'est l'homme. Et c'est pour ça qu'il dit le grand problème philosophique auquel on revient tout le temps, ce problème philosophique qui n'a pas une solution, c'est le problème de voir comment de l'un provient multiple. Et oui, c'est comment. Le grand problème de philosophie, c'est le pos. C'est pas le tiesti. C'est là la très grosse différence avec Aristote. C'est le problème du comment. On se pose, au fond, on pourrait dire, pour nous, c'est le problème de la création. Le problème vraiment fondamental sur lequel, de fait, Plotin revient tout le temps, c'est ça. Il le considère comme le problème philosophique. Et il dit ça au terme de toute la philosophie grecque. Parce qu'après Plotin, vous avez des commentateurs, mais vous n'avez plus le sens rigoureux des philosophes. Autre chose est d'être commentateur des grands philosophes et être philosophe. Proclus, Damasius, ce sont des commentateurs de Plotin. Donc on peut dire que Plotin représente le dernier moment de la philosophie grecque. Ce dernier moment de la philosophie grecque, c'est de montrer la grandeur de l'un et de montrer l'absolu de l'un. Au-delà de l'un, rien. Alors, vous allez dire au-delà du bien, rien. Au-delà du bien, l'un. Mais au-delà, attention, c'est pas au-delà. Au niveau du bien, l'un. Mais je crois qu'on doit dire que c'est l'un qui absorbe le bien, en définitive. Je sais qu'on peut donner d'autres interprétations, mais si je veux interpréter tous les textes de Plotin, c'est ça qu'on doit faire quand on interprète, hein, on doit essayer de comprendre tous les textes de Plotin. Je crois que ce texte qui me semble capital chez Plotin,
Le grand problème philosophique, c'est de comprendre comment de l'un proviennent multiples. Pour moi, ça éclaire l'interrogation dernière de Plotin. Plotin s'est toujours posé cette question-là, jusqu'à la fin de sa vie. Comment de l'un proviennent multiples? Et il ne dit pas comment le bien est-il capable de tout ramener à l'unité. Ça, ce serait le problème de la finalité. Tandis que comment de l'un provient le multiple, c'est le problème de l'émanence, de l'émanation. Comment de l'un provient le multiple, la protection, l'émanation de l'un. De l'un, on voit le multiple qui apparaît. Alors comment se fait ce passage de l'un du multiple? Comment comprendre ce passage? Et comment comprendre le retour à l'unité? Et le retour à l'unité, c'est l'attraction du bien. C'est dans ce sens qu'on dira, dans une perspective néo-platonicienne, Saint-Thomas dira ça à la suite de Denis, il dira comment le bien est une force unitive. L'amour est une force unitive, et l'amour provient du bien. Et alors l'amour fait l'unité. Au milieu de ce multiple, dans le multiple, il y aura une force d'unité. Et cette force d'unité, c'est l'attraction du bien qui produit ça. L'attraction du bien fait l'unité. Ça fait l'unité à l'intérieur et par l'amour. Oui. Mais, encore une fois, ce n'est pas le problème principal, c'est un problème second. Face au multiple, je vois la réduction vers l'un. Mais le problème fondamental, c'est face à l'un, comment le multiple apparaît. Donc je crois qu'on peut dire ça comme étant le problème principal. L'un peut désigner pour Plotin, alors une fois qu'on a bien compris cette importance de l'un, on va essayer de comprendre un tout petit peu mieux ce que représente cet un chez Plotin, parce que c'est pas le rendu dernier. Parce que je vois qu'on ne peut pas faire la philosophie de l'un et du multiple si on n'a pas l'arrière-fond sur Plotin. Pas possible. C'est parce que c'est là, on va tout le venu de l'exaltation plénière et totale de l'un. L'un peut désigner pour Plotin l'unité numérique, mais l'un en soi n'est pas l'ombre. Il n'est pas un genre. Et on ne peut le diviser. Le diviser, c'est le multiplier. L'un en soi sera donc multiple et se détruira lui-même s'il veut être un genre. Mais s'il s'agit de l'un qui appartient à l'être, le to prosan to onti, de l'un qui est, ce n'est plus l'un premier. Le proto-en. Oui, comme c'est pas commode. Vous avez donc l'un numérique, l'un générique, l'un qui est et l'un au-dessus de l'autre. Et c'est ce que vous retrouvez dans tout le monde catholique. Dans tout le monde catholique, vous retrouvez tout le temps ça. Et ça, il faut essayer de dire ce que ça veut dire, parce que c'est pas si dur que ça à comprendre. Oui, je relis ce petit passage. Hein. C'est dans l'Énéade 6e, 2, 9, 9. Et de même, dans l'Énéade 6e, 2, 10, 5, 6. On ne saurait considérer comme identique l'un qui est dans l'être et celui qui est dans le premier et celui qui est dans les êtres particuliers. Donc il y a l'un participé et l'un imparticipant. Oui, puisqu'au fond, on va tout de suite trouver le problème de la participation. Hein. Dès que le premier problème de l'un est que si l'un est au sommet de tout, la participation est au sommet de tout. Le passage de l'un au multiple, c'est le problème de la participation. C'est pas le problème de la causalité. C'est pour ça que c'est comment. Ce qu'on veut essayer de comprendre. Le problème de la participation, c'est le problème du comment. C'est pas le problème du qui. C'est là la très grande différence entre l'analyse philosophique de la chef des causes et le point de vue d'une espèce de regard qui unifie la multiplicité de l'un par le point de vue du cause, par le point de vue de la participation. La participation permet une grande synthèse, mais la participation n'analyse jamais. Alors là, on voit très bien, et il faut sentir ça, il faut sentir le génie de l'analyse, la chef des causes. Et le génie de la synthèse, le point de vue du comment. je crois que les deux sont très très importants à saisir. Faut pas les opposer, faut tout simplement comprendre qu'il y a là deux aspects très différents et on doit les ordonner. C'est ce qu'il faut aussi comprendre. Cette philosophie de l'intuitif, elle n'a d'intérêt pour nous, profondément, que de voir qu'est-ce que ça dit. Profondément. Pourquoi ce problème de l'un du multiple a-t-il hanté l'intelligence de Plotin? Pourquoi ce problème de l'un du multiple a-t-il été au cœur de toute sa recherche? Et comment, dans tous les néoplatonismes, c'est toujours là ou rien? Parce que je crois que le problème de l'un du multiple, c'est le grand problème de la participation. Le problème de la participation, c'est quand même quelque chose de très très important. C'est tout le problème de l'ontologie, ça. C'est pas la causalité qui fait un problème d'autonomie, c'est le problème de la participation. Donc c'est le problème de l'un du multiple. Il faut retenir progressivement. Hein. Je regarde ici Plotin parce que c'était quand même un grand maître. Si vous voulez, en philosophie de l'un du multiple, c'est Plotin qu'il faut regarder. Il faut regarder Parménide, Plotin, c'est... C'est Plotin qu'il faut regarder. Il faut regarder Parménide, Plotin, c'est les deux premiers, mais Plotin, c'est le philosophe de l'un du multiple. Donc je relis ce petit passage, 6, 2, 9, 9. Le diviser, c'est le multiplier. C'est pour ça qu'on dit que l'un, c'est ce qui ne peut pas être divisé. L'indivisé. Le non-divisé. Voyez que vous dites de l'un par la négation. Ça aussi, c'est très important. L'un peut s'exister par la négation. C'est la différence de l'être. L'un, vous l'utilisez par l'affirmation. L'un, vous l'utilisez par la négation. C'est la négation qui est produite en l'un. Qu'est-ce que c'est l'un? Tout qui n'est pas divisé. Vous n'avez rien dit en disant ça. Vous avez montré la transcendance de l'un. Ce qui n'est pas divisé, ce qui n'est pas susceptible de tomber sur la division. Tout ce qui est divisé, tout ce qui est divisé, c'est le multiple. Là, c'est le non-divisé. Alors, vous voyez cette chose curieuse. Comment la négation est-elle devenue antérieure à l'affirmation? Donc, c'est le grand problème de toute la philosophie occidentale. La modernité de la philosophie occidentale, c'est le primat de la négation sur l'affirmation. Je vous l'ai déjà dit. C'est ça qui caractérise le point de vue de la modernité de la philosophie. Si on veut bien comprendre, hein, si on veut bien comprendre ce que signifie, donc d'une façon très générale, mais d'une façon profonde, radicale, d'un point de vue critique. Ça ne l'est de rien, mais c'est capital pour nous autres. Nous pensons par affirmation ou négation. Alors, quel est le primat? Est-ce que c'est l'affirmation ou la négation? Qu'est-ce qui est premier, la haine ou l'amour? Ça, ça a une conséquence. Hein? Qu'est-ce qui est premier, la haine ou l'amour? Qu'est-ce qui est premier, l'affirmation ou la négation? Si vous affirmez, si vous dites que c'est l'affirmation qui est premier, je prends l'existence. Si vous dites que c'est la négation, on va. Alors vous êtes tout à fait à la source de deux grands courants qui vont. Le rôle de l'un. Non,
alors vous voyez tout de suite. Je ne vais pas dire que l'un est affirmatif, il est plus gentil. Mais symboliquement, comprenez bien. Symboliquement, c'est ça. Les deux sources. Et c'est vrai que c'est capital pour nous comprendre qu'est-ce qui est premier, l'affirmation et la négation. Et si l'affirmation est premier, ah, ceci est le premier. Vous acceptez le conduit de la philosophie de l'être. Si vous dites que la négation est premier, vous donnez un au-delà de l'être. Et alors, c'est l'être. Et je crois que toute philosophie du primat de la négation, c'est toujours l'un. Sous des manières très différentes. C'est toujours l'un qui est premier. Ça, c'est la clé. Ce qu'il faut essayer de comprendre, ça. C'est une chose qu'on doit essayer de saisir. Donc, c'est l'un, le diviser, c'est le multiplier. L'un en soi est donc, l'un en soi sera donc au-delà de toute division.
Puis vous le divisez, vous le détruisez, ce n'est plus l'un. Donc l'un, par le fait même, sera au-delà de l'être. Pourquoi? Parce que l'être, dans la perspective de Platon et dans la perspective de Platon, l'être est intelligible, il est multiple. Si l'être est multiple, il ne peut pas être l'un. Il y a donc au-delà de l'être, l'un, qui maintient quelque chose au-dessus. L'intelligible est toujours multiple. C'est pour ça que Platon dira que la pensée implique une diade. Parce que quand je pense, il y a l'intelligible qui est premier, qui est en moi. Il y a la pensée et pensée intelligible. Nous dirions, il y a l'objet de sujet. Donc dans toute pensée, il y a une diade. Si toute pensée implique une diade, la pensée ne peut pas être première. C'est impossible. C'est impossible que la pensée soit première. Donc la contemplation ne sera pas dernière. Et au-delà de la contemplation, il y aura les aussi, s'il y en a. Ce qui est ultime dans la vie, dans la vie du philosophe, ce n'est pas la contemplation. C'est l'union avec l'un. C'est devenir un. Au-delà de la théorie. La théorie n'est plus première, la pensée n'est plus première, c'est l'un. Platon considère l'un comme principe. 3, 8, 10, 14, l'un. L'un est arché. C'est ça qu'il faut comprendre. Et l'arché, au-delà de quoi je ne peux pas aller. Vous voyez, c'est encore une négation. Quand je définis l'un arché, je veux dire que justement l'un est au-delà de tout ce que je peux aller. Quand je dis que c'est au-delà de tout ce que je peux aller, je l'exprime de façon négative. Je ne peux pas transcender ça. Alors je vous lis ce texte, de lui viennent la vie et l'intelligence, puisqu'il est principe de l'ousia de l'être. Il est principe, donc il est au-delà de l'ousia de l'être. Il l'est parce qu'il est un. Alors, à ce moment-là, vous avez tout compris. Il est parce qu'il est un. Donc l'un est un parce qu'il est un. Et c'est vrai, ce qu'il est premier ne peut pas l'expliquer par autre chose, hein, il faut l'expliquer par lui-même. Car il est cinq premier, parce qu'il est principe. Ceci, c'est 5, 5, 10, 13, 14. C'est pourquoi, au-delà de lui, on ne peut remonter. Il est source de toutes les réalités. De lui viennent toutes choses. Tout part d'une unité. Et tout ce qui ramène par une nécessité naturelle, aussi des choses différentes et même contraires, sont pourtant entraînées à former un ordre unique si elles dérivent d'une unité. Tout dérive de l'un, tout remonte à l'un. Et parce que tout dérive de l'un et que tout remonte à l'un, il y aura donc un ordre. La raison de l'ordre naît de l'un, ce qui du reste serait juste. L'un est mesure, et mesure de la multiplicité, c'est dans la multiplicité. Il y a un ordre vers l'un, il y a quelque chose. L'un est donc au-delà de l'ousia. C'est ça qui est très important à saisir. Vous voyez, si on dit que la philosophie d'Aristote est une ousiologie, enfin, ce qui n'est pas juste, n'est-ce pas, mais à la manière de Gilson, parce que Gilson dit ça, il dit que la philosophie d'Aristote est une ousiologie. Et on le répète aujourd'hui, parce que ça fait autorité. La philosophie de Platon est au-delà de l'ousia, donc au-delà de la substance. C'est une philosophie de l'un. L'un est donc au-delà de l'ousia, donc de la substance, et de toute forme. Il est antérieur à elle. Il est nécessaire que l'un soit sans forme, à l'idéal. Étant sans forme, il n'est pas ousia, car l'ousia doit être un todéti. Aristote a dit, un todéti, c'est-à-dire quelque chose de déterminé. Un todéti, c'est l'individu. Un todéti, c'est ce qui est. C'est ce que vous montrez. C'est ce qu'on peut indiquer. Car l'ousia doit être un todéti, ce qui est définissable. Or, vous voyez, ça c'est très intéressant. Hein. Donc l'ousia doit être définissable, or l'un ne peut pas être définissable. Il est non définissable. Il est non intelligible par le fait même. Je ne peux pas le saisir, il me transcende, il me dépasse complètement. Or, l'âme ne peut être saisie comme un tout petit, car il ne serait plus principe. Aussi, sa qualité est-elle de ne pas en avoir, car qui n'a pas de fluidité n'a pas non plus de qualité. Il n'y a pas de fluidité, donc il n'y a pas d'intelligibilité dans l'âme. L'âme est au-delà de tout intelligible, il est au-delà de l'être. Il est un. Il est principe. Mais c'est très intéressant comme recherche ultime et dernière de ce que représente l'archéologie. Au-delà du dépassement de la définition. Ce qui est très important à saisir, c'est que pour Platon, l'ousiance, la substance, est au niveau de la détermination d'intelligible. La substance est au niveau du définissable. Alors vous voyez bien, comment dans le néoplatonisme, le principe n'est plus intelligible. L'intelligibilité est au niveau de la définition. Ça, c'est très net chez Platon. Et c'est très net à partir de Platon pour tout le monde. Ce qui est intelligible, c'est inéfinissable. Vous voyez comme la scolastique est néoplatonicienne. Dans la scolastique décadente, la seule chose définie, la seule chose intelligible, c'est la définition. C'est pour ça qu'on parle du principe. Le principe, c'est quelque chose. C'est pas la même chose, c'est inintelligible. C'est quelque chose qui dépasse tout. Ça, c'est tout à fait clair. Mais définissable, c'est intelligible. Je ne peux qu'est-ce que quelque chose d'intelligible peut toujours être défini. C'est une position très intéressante à saisir, hein, parce qu'elle est, je crois, très très présente dans toute la scolastique décadente, et elle est très présente dans tout l'ontologisme. Alors, je vous ai déjà dit, pour comprendre l'athéisme moderne, il faut comprendre l'ontologisme. Puisque l'athéisme moderne est un anti-ontologisme. Et ça, c'est capital de le comprendre. Autrement, je ne saisis pas le problème. Il faut le saisir, il faut comprendre ce que c'est que la position de l'athéisme contemporain. C'est un anti-ontologisme. C'est parce qu'on a voulu définir l'homme par rapport à Dieu que l'homme a voulu retrouver son autonomie. Ce qu'on disait à propos de Nietzsche. On a voulu retrouver son autonomie. Là, parce que définir l'homme par rapport à Dieu, c'est relativiser l'homme. C'est donc empêcher de découvrir l'autonomie de l'homme. C'est pour ça que l'ontologisme est source de l'athéisme. Absolument, volontairement, hein, c'est sûr. Mais de fait, de facto, c'est ce qui existe. Et je ne comprends pas l'athéisme contemporain si je ne vois pas ce que c'est l'ontologie. Or, la source de l'ontologie, c'est Plotin. C'est pour ça que c'est si important. C'est une clé. C'est pas vraiment une clé, ça. Je suis en plus sûr que c'est une clé. Mais égal n'est pas une clé. Tandis que Platon est une clé pour saisir un peu toute la pensée jusqu'à Hegel, de l'ontologie jusque dans le déluganisme. Là, et donc, il est au-delà de l'usia parce qu'il n'a pas de sens. Aussi, Platon affirme que l'un est toute chose, il n'est aucune d'entre elles. Donc il est palpable de toute chose, et d'aucune d'entre elles, principe de toute chose, il n'est pas toute chose. Il est la source de tout, mais il n'est pas tout. Donc il y a la transcendance, hein, oui bien, la transcendance et l'immanence. Les deux sont affirmés, là. Ils sont affirmés de façon très nette. Là, le premier n'a pas de Dieu. Il n'est nulle part. Il n'a rien ou il ne soit. N'ayant rien avant lui, le principe n'a rien pour le contenir. N'ayant rien pour le contenir, et puisque toutes choses sont en celles qui sont avant elles, il contient toutes les autres choses, sans se disperser en elles. Et la vision de l'omniprésence. L'un est présent en tout, et cependant, il n'est lié à rien. Mais il est présent.
C'est pas tout ce que nous disons, Dieu. C'est quand même, on réalise cette espèce de
Platon, c'est pas tout à fait la même chose,
mais c'est quand même une espèce d'omniprésence, hein, quand il dit « l'un n'a pas de lieu, il n'est nulle part et il n'a rien où il ne soit. »
Il est nulle part et il est partout. Donc il est présent partout et il n'est nulle part. Il est en toute chose, il est toute chose, mais cependant, aucune chose ne le touche. Étant indépendant de tout, rien n'empêche qu'il ne soit partout.
Il est infini.
Alors vous avez l'affirmation, il est infini, il est présent toute chose. Je lis encore ce texte, il possède l'infini, à Peyron, parce qu'il n'est pas multiple, et parce qu'il n'y a rien pour le limiter. Il n'est ni mesurable, ni démontrable, parce qu'il est un. Il n'a donc de limites, il n'a donc ni de limites, ni en autre chose, ni en lui-même. Il n'a donc ni figure, ni partie, ni forme. Ne cherchez donc pas à le voir avec des yeux mortels. Vous ne pourrez pas le saisir. Les yeux mortels ne saisissent que la figure, ne saisissent que la détermination, ne saisissent que la forme. Il est donc au-delà. On peut comparer l'un, alors comparaison, analogie métaphorique, on peut comparer l'un à la lumière. L'être qui vient après lui au soleil, et le troisième à la lune, qui reçoit sa lumière du soleil. Vous avez donc l'un qui est la lumière, l'être qui est le soleil, et la lune qui est la vie. Les trois, la triade. C'est pas? Voilà, c'est intéressant parce que ça c'est les trois, la trinité plotinienne. Hein? La trinité plotinienne est affirmée par Platon de cette manière-là. Lumière, soleil, lune. Bon, la lumière, c'est l'un. Elle est ce par quoi tout est visible, la lumière. C'est ce par quoi tout est visible. Mais la lumière, comme une peine, si elle est une lumière, ça ne va pas. L'un est vu à travers les déterminations des autres, donc à travers l'invisible. L'être, c'est comme l'être, le soleil. Et puis la lune, c'est ce qui provient du soleil, c'est entièrement reflétif. Donc c'est la vie. Une trinité quotidienne. L'un, l'être, la vie. Et alors ces trois sont mis en comparaison de la lumière, le soleil et la lune. L'un fournit à l'intelligence la lumière. Il est lumière, une lumière simple qui donne à l'intelligence le pouvoir d'être ce qu'elle est. Il y a autour de l'un un rayonnement qui vient de lui qui reste immobile comme la lumière, resplendissant, qui environne le soleil, mais de lui. Il est raisonnable, dit encore Platon, je m'arrête après, d'admettre que l'acte, je dis ça pour vous ne soyez pas impatients, d'admettre que l'acte qui émane en quelque sorte de l'un, vous voyez l'acte, c'est intéressant à voir ça, l'acte ça émane de l'un, donc l'acte est relativement à l'un, l'ouïa provient de l'un et l'acte provient de l'un. Vous avez là une vision nouvelle de ce que les énergies là. C'est très important parce que c'est toute la grande vision que vous retrouverez chez les pères de l'Église, que vous retrouverez chez les orthodoxes. C'est la clé, ça. C'est pour ça que je vous le donne, parce que je crois que c'est très important. Il y a des tas de choses qui ne se comprennent que si nous regardons Platon, que nous entrons dans Platon. Toute la grande théologie des orthodoxes du XVIe siècle, c'est les énergies. C'est les énergies, et les énergies proviennent de Platon. C'est les énergies de Dieu, les attributs de Dieu, ils appellent les énergies de Dieu, les énergies de Dieu. Et ça provient de cette affirmation de Platon d'admettre que donc, Platon dit encore, il est raisonnable d'admettre que l'acte qui émane en quelque sorte de l'un est comme la lumière qui émane du soleil. Toute la nature intelligible est une lumière. Debout au sommet de l'intelligible et au-dessus de lui règne l'un. qui ne pousse pas hors de lui la lumière qui rayonne. Nous admettons que l'un est avant la lumière, une autre lumière qui rayonne sur l'intelligible en restant immobile.
Il est la lumière et il est au-delà de la lumière. Fortement, puisque c'est une comparaison.